Il est 7h46, rendre simples les sujets compliqués et parfois compliquer les sujets simples. C'est tout le charme du débat éco du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour Nicolas, quelques exemples en
non,
tête.
Non, je ne vise personne, enfin je resterai pudique. Nous nous arrêtons ce matin donc dans le sillage de cet édito de Thomas Legrand sur le discours qu'a tenu hier Emmanuel Macron autour de l'avenir énergétique de la France, solaire, éolienne, nucléaire, évidemment avec la commande annoncée de 6 voire 14 nouveaux réacteurs. Le pari d'une nouvelle aventure nucléaire, titre les Échos, sur un ton d'épopée industrielle. Vous aurez donc la parole en premier, Dominique. D'un point de vue général, on entrera dans les détails ensuite, évidemment. Qu'avez-vous pensé des annonces d'Emmanuel Macron ?
Bon, sur la forme, c'était un exercice un tout petit peu étrange, hein, puisqu'on avait un président, mais qui était surtout un candidat, qui était évidemment plus un candidat qu'un président, puisque, naturellement, quand il a indiqué à plusieurs reprises « j'ai pris des décisions », non, il ne prend pas de décisions pour les deux mois qui viennent, il était dans la posture ou dans la situation d'un président qui aimerait être réélu et qui se voit peut-être déjà réélu. Sur le fond, l'avantage quand même, c'est qu'il est clair sur son projet. On connaît son projet présidentiel sur l'énergie, c'est un grand mérite.
Ouais.
Il a évoqué les trois dimensions et dans l'ordre que vous avez donné, c'est-à-dire les économies d'énergie d'abord. J'ai noté que le terme sobriété a utilisé. S'il y avait un nuage de mots, tous les mots qu'il faut utiliser sur ce sujet l'ont été. Puis les énergies renouvelables, puis le nucléaire. On va sans doute y revenir dans le détail. Ce qui est clair, c'est que c'est une voie totalement différente de celle des Allemands. C'est une voie différente de celle empruntée par un grand nombre de pays, la plupart des pays, puisqu'il reste une part importante de nucléaire. Beaucoup de chiffres ont été donnés, le nombre de réacteurs, les gigawattheures. Mais moi, il y en a un qui m'intéresse, qui n'a pas été donné, mais qui est assez facile à calculer. C'est quel est l'objectif de part du nucléaire dans la production d'électricité en 2050 ? 40%. C'est passé de 70 à 40%. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut avoir en tête. Alors, naturellement, une fois qu'on a dit ça, c'est ce qui a manqué quand même dans le discours, c'est qu'on aurait aimé avoir les objectifs pour 2030, 2035, 2040, 2050. C'est loin. Nous serons tous ailleurs. Au total, on a...
Ailleurs qu'à France Inter.
On va pas se poser... Voilà.
On n'est pas pressé, Dominique.
On va pas se poser la question de savoir si c'est un exercice réussi. Ouais. C'est un projet... précisé.
Thomas Piketty,
différent de 2017.
Même question, plan large, avant de zoomer.
Ce qui m'a gêné, je trouve qu'il cherche à cliver politiquement sur un sujet qui est tellement délicat, tellement complexe que je pense qu'il faudrait être beaucoup plus prudent, essayer d'être beaucoup plus pédagogue. Je voudrais revenir quand même. On avait débattu en novembre dernier avec Dominique des six scénarios présentés donc par Réseau de transport d'électricité de France, qui est donc l'opérateur qui avait présenté ces scénarios qui permettaient, chacun des six permettait à l'horizon 2050 d'augmenter fortement la production d'électricité. Et ces six scénarios se distinguaient par la part du nucléaire qui allait en gros de 0 à 50% dans les six scénarios. Donc la bonne nouvelle de cet exercice, c'est qu'il y avait différentes façons de faire, y compris des façons qui reposaient entièrement sur les énergies renouvelables. Et donc en gros, là, le président de la République fait le choix des scénarios parmi les plus nucléaires, pas exactement le plus, mais parmi les plus nucléaires.
Donc il a fait son choix.
Des six scénarios. Le problème, c'est qu'en vérité, si on regarde ce qu'on sait aujourd'hui sur le coût des différentes filières et sur le risque des différentes filières, si vous voulez prévoir à l'avance comme ça exactement combien on va avoir de réacteurs, combien ça va coûter à l'horizon 2050, moi je pense qu'il est urgent d'abord. Vous savez, depuis le mois de novembre, il y a eu quand même plusieurs très mauvaises nouvelles sur le nucléaire d'un point de vue strictement factuel. Il faut les rappeler, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en décembre qu'en fait l'EPR de Flamanville qui devait ouvrir fin 2022, enfin c'est ce qu'on disait à l'époque, en fait on s'est rendu compte en décembre qu'il y avait des difficultés techniques imprévues, de nouvelles difficultés techniques imprévues, qui fait qu'en fait le combustible n'allait être chargé dans la cuve que dans le courant de l'année 2023 pour une ouverture au mieux en 2024. On a découvert également des phénomènes de corrosion dans des cuves des réacteurs classiques.
Donc vous dites prudence, c'est ça ?
Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas ouvert ce réacteur de Flamanville, qui quand même, à 10 ans de retard, a coûté 5 fois plus cher que prévu, faire des plans sur combien va coûter le nucléaire à l'horizon 2050, alors qu'on ne sait toujours pas combien le réacteur de Flamanville aura coûté au total, et on a besoin de
toucher à cet exemple. Ça n'empêche pas, de lancer les études et les commandes. Aucun travail ne commencera avant 2028 et il y aura une entrée en vigueur. Ça a été évoqué en 2035.
Et l'autre point, c'est que là, en faisant ces annonces, Emmanuel Macron, met vraiment le frein sur l'éolien, annonce des chiffres sur le solaire.
Il y a quand même
sur quelle surface,
des annonces substantielles sur l'éolien et sur le solaire.
Je conseille vraiment aux auditeurs d'aller regarder les scénarios RTE et on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucun des scénarios qui est facile.
Alors,
c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des difficultés sur l'éolien et le nucléaire, mais il y a des risques et des incertitudes sur le nucléaire.
Vous dites que le choix sur le nucléaire est un choix fait, est un choix fort. Est-ce un choix risqué, Dominique ? J'aimerais vous entendre là-dessus, puisque Thomas a soulevé la question du risque.
Alors, il y a trois moyens de répondre à cette question. Est-ce que c'est un choix risqué sur le plan technologique ? On ne sait pas pour l'instant si ça marchera. Sauf qu'il y a trois réacteurs EPR qui ont été construits dans le monde. Alors, il y a le finlandais qui est en cours, qui est chargé et qui doit être branché au réseau dans les semaines qui viennent. Il y a eu un léger retard. Pour l'instant, c'est pas fait, mais
le président l'a cité hier.
Ça a été cité. Il y a les deux cas chinois. Ils ont démarré. Il y en a un qui est arrêté, arrêté en fait. Il y a des problèmes techniques. C'est vrai que les Chinois ont c'est impressionnant quand on parle aux gens de la filière, ils disent les Chinois ils sont quand même très bons. Ça a été fait en collaboration avec EDF. Les soudeurs par exemple chinois ont une réputation absolument mondiale. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Qu'est-ce qu'on a perdu à ne pas avoir construit
comme compétence, vous voulez dire ?
Procrastiné pendant des années. Ça c'est la première question donc technique. La seconde question elle est financière. Thomas vient d'en parler. La troisième c'est climatiquement, est-ce que c'est le bon choix quand même ? Il faut quand même redire, et Thomas Legrand évoquait le sujet, depuis 50 ans, la France est le pays qui, dans la production d'électricité, a la production la plus décarbonée qui soit. Si, imaginons, que la majorité des grands pays dit sûr, c'est-à-dire qui font ça sérieusement, aient eu plus de nucléaire, le problème du réchauffement climatique serait moindre. Je ne dis pas du tout qu'il ne serait pas là, mais il serait moindre. Donc le bilan climatique, il ne fait pas de doute. Après, il y a la question des déchets, bien sûr, la question de la sécurité, bien sûr. Mais redisons quand même ce bilan depuis 50 ans.
Ce point-là, Thomas Piketty, comment y répondez-vous ?
Je pense qu'effectivement, si on regarde l'évolution des coûts sur le nucléaire depuis 10-20 ans, ils n'arrêtent pas d'augmenter, alors que l'évolution des coûts sur le solaire, l'éolien, n'arrête pas de baisser. Donc, c'est très difficile de prédire l'avenir. Mais quand on voit ce type d'évolution sur les coûts, on a quand même plutôt tendance à penser que ça va continuer dans cette direction. Et on peut pas mettre ça sur le dos des anti-nucléaires. Vous voyez, si les coûts de l'EPR de Flamanville ont été finalement 5 fois plus élevés que ce qui était prévu initialement par EDF, c'est à cause d'EDF. Enfin, disons, c'est que c'est compliqué aussi. Je veux dire, on peut pas dire c'est de la faute des antinucléaires. Il y a un moment.
Non, mais c'est pas ce qu'il disait. C'était sur les vertus du nucléaire.
La grande question, c'est qu'il faut toujours une base pilotable. Est-ce qu'il faut construire des centrales à gaz ou est-ce qu'il faut des centrales nucléaires?
Je suis très clair sur le fait qu'il y a aucune solution facile. Je l'avais dit quand on en avait battu en deux. Je le redis aujourd'hui, c'est-à-dire que l'éolien pose des problèmes sur le paysage, pose des problèmes de matériaux, le solaire pose des problèmes aussi de matériaux, des problèmes de paysage. Simplement, on sait qu'on va en avoir besoin, c'est-à-dire que même dans le scénario, et moi c'est ça qui m'embête dans les annonces d'hier soir, c'est qu'on fait des annonces tonitruantes sur 6 nucléaires, 14 nucléaires, en fait on n'engage pas vraiment le débat sur quelle partie du territoire on va avoir plus de solaire, quelle partie du territoire on va avoir plus d'éolien. On est très en retard, il faut quand même rappeler que la semaine dernière Eurostat a publié les chiffres sur les différents pays, la France est le seul pays qui n'a pas rempli ses objectifs sur le renouvelable. C'est-à-dire qu'au cours des 5 dernières années, on a vraiment levé le pied sur l'éolien, le solaire par rapport aux autres pays européens. Donc on pourrait avoir une approche pragmatique du nucléaire, voir comment marche Flamanville, voir comment prolonger certaines centrales, tout en avançant sur le renouvelable.
Dominique.
Et c'est ce qu'on a fait.
Bien sûr que la France n'a pas assez avancé sur le renouvelable et surtout sur l'éolien en mer.
Mais là, l'idée c'est d'accélérer.
Absolument, avec 50 parcs en 2050.
C'est beaucoup moins précis que les annonces sur le nucléaire, en particulier en termes d'investissement réalisé.
Attendez, il finit sa phrase.
50 parcs d'ici 2050... évidemment, on aurait aimé savoir en 2030, 2035, 2040, parce que 2050, encore une fois, on a dit tout ce qu'on pouvait en penser. Donc, il y a un retard énorme. Alors, qui est responsable de ce retard sur l'éolien en mer? Il est probable que la filière industrielle française et un peu nucléaire n'a pas poussé les feux de manière exagérée, mais il y a aussi et surtout le fait que on parle des premiers parcs depuis les années 2000. Moi, je me souviens d'avoir fait une interview d'un dirigeant à l'époque, c'était en 2004 ou 2005. C'est il y a quand même très très longtemps. Et donc, il s'est passé des délais, des contestations, des consultations. Tout est un peu plus long en France, y compris sur le solaire. La pédale est mise vraiment douce, là, est mise vraiment douce sur l'éolien terrestre, dans ce qui a été, je dis pas annoncé hier, moi je dis ce qui a été évoqué hier. C'est le doublement du parc terrestre d'ici 2050. Bon, autant dire, je vais pas prendre
au départ, c'était 2030, cet objectif.
Voilà, exactement.
Donc, en fait, ce qui a été annoncé hier, c'est un report de 20 ans.
Donc, je ne prends pas une petite flûte, mais c'est sur l'éolien terrestre, on voit à peu près où
en langage clair,
J'aimerais, Thomas Piketty, que vous nous disiez quel équilibre alternatif aurait été à vos yeux meilleur.
Bah, à nouveau, moi, j'essaye de partir des scénarios de RTE où il y a 6 scénarios.
Alors, lequel? Alors, les 6? Et moi, décrivez-le précisément.
Bah, dans les 6, il y en a qui n'ont aucun nucléaire. Donc, ça veut dire plus de surface consacrée à l'éolien, plus de surface consacrée au solaire, ce qui est aussi compliqué. Donc, moi, je pense surtout, ça demande un débat démocratique. Si vous voulez, il y a un moment, peut-être qu'il faut faire participer aussi la population, parce que on a des questions qui sont des questions citoyennes, qui sont des questions démocratiques. C'est-à-dire que on va pas le trancher, si vous voulez, du point de vue des coûts, d'un point de vue strictement économique. La vérité, c'est que les coûts sont assez comparables sur les filières renouvelables et les filières nucléaires.
Ne soyez pas obsessionnel sur l'argent et les coûts.
Mais justement, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec en plus l'incertitude considérable qu'il y a sur les coûts du nucléaire, plus d'ailleurs que sur les coûts du renouvelable, sans parler des risques quand même. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on va savoir traiter les déchets, on ne sait toujours pas les traiter.
D'accord. Donc, quel scénario sur les 6?
Donc c'est 100% renouvelable ou pas 100% renouvelable?
Non, moi je pense qu'on peut tout à fait garder une part de nucléaire, mais je ne pense pas qu'on puisse, à la date d'aujourd'hui, choisir le scénario, 14 nouveaux réacteurs, alors que le premier réacteur européen n'est toujours pas en fonctionnement.
Je pense
que ça, c'est de l'instrumentalisation politique.
C'est pas ce qui a été dit hier. C'est 6 commandés.
Si, moi, je voudrais qu'on ait dans cette campagne un débat précis sur quelles vont être les surfaces consacrées au solaire, à l'éolien, qu'il y a eu en partie dans la campagne allemande, où on a discuté concrètement en termes d'hectares qu'elle allait être consacrée, parce que c'est vrai que ça va pas être simple. Moi, je dis clairement, les risques, si vous voulez, sont pas du tout les mêmes dans tous les cas. Dans un cas, on a quelque chose qui est visible, qui se voit sur des territoires. Alors encore plus pour l'éolien que pour le solaire, mais le solaire, c'est pas si simple non plus. L'autre, on a des toutes petites surfaces qui sont touchées, mais avec, vous savez, il suffit qu'on ait un accident un jour et je vous assure que vous allez arrêter de traiter ça de façon aussi...
Dominique, conclusion.
La question qui est clé, c'est de savoir aussi quel est le volume d'électricité, la quantité d'électricité dont on aura besoin en 2035, 2040, 2050. Tous les scénarios sauf un, disent ça va monter. Ça n'a pas été anticipé il y a 5-10 ans. Le basculement vers la voiture électrique va être beaucoup plus rapide. La production industrielle qui s'électrifie, c'est un changement considérable. Et si on veut basculer vers de l'hydrogène, cet hydrogène, il faut le produire de manière propre et non pas sale. Et donc là, c'est un énorme changement. Les modes de consommation, on va revenir vers le chauffage électrifié. Et donc, en fait, je pense qu'on aura des surprises, même au-delà des scénarios RTE, pour la consommation d'électricité nécessaire.
Eh bien, espérons que ce débat aura lieu, comme le disait Thomas Legrand, pendant ce qui reste de campagne présidentielle. Merci messieurs, merci Dominique Seux, merci Thomas Piketty, le titre de votre dernier livre aux éditions du Seuil, dans la petite collection Libelle, Mesurer le racisme, vaincre les discriminations. France Inter.